Inscrire l'accord de Bougival dans la Constitution, l'examen du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie débute son parcours législatif par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Les avions d'Aircal toujours interdits à Marée, le collectif des usagers refuse même qu'ils effectuent une liaison dans le cadre du corridor sanitaire, sauf s'ils atterrissent à Magenta. Le gouvernement lance une campagne de vaccination contre le papillomavirus. Elle concerne les élèves de 5e et de 4e et se poursuivra jusqu'au 29 mai. 25e jour de guerre au Moyen-Orient. On parle de plus en plus de discussions sur un cessez-le-feu. Le Pakistan offre ses services pour la médiation. Les suites politiques des municipales en métropole. Jean-Luc Mélenchon rend les socialistes et les écologistes responsables de l'échec des alliances à gauche. Et puis le sport, Alexis Pinturo a raccroché les skis à 34 ans. Le Français aux multiples victoires a disputé cette nuit son dernier slalom géant en Norvège. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une réunion devait se tenir ce soir à l'Élysée entre Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher concernant la réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Elle était prévue à 22h, c'est-à-dire 8h ce matin, heure de Nouméa. Le président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat devaient faire le point sur les difficultés d'adoption du projet de loi constitutionnelle qui est arrivé, Elisabeth Noir, à l'Assemblée nationale.
Oui, le projet de loi constitutionnel a été adopté largement, vous le savez, par le Sénat le 24 février dernier. Il sera examiné à partir du 1er avril en séance publique à l'Assemblée nationale. La nuit dernière, pour nous, la commission des lois de l'Assemblée, on a commencé l'examen en auditionnant d'abord la ministre des Outre-mer, Naïm Mamoudchou, mais on sait que son adoption sera compliquée. Aucune majorité ne se dessine pour le moment. Les députés LFI y sont opposés. Ils devraient faire de l'obstruction en multipliant les amendements. De leur côté, les socialistes, comme le Rassemblement national, refusent le texte en l'état. Entendu par les députés de la Commission des lois, Naïm Mamoudchou a défendu la réforme qui prévoit d'inscrire l'accord de Bougival et l'accord complémentaire Élysée-Oudinot dans la Constitution. Elle a répondu à plusieurs objections et notamment sur le report à décembre des élections provinciales. La question n'est pas seulement celle de la date, a fait valoir la ministre.
Organiser des provinciales avant d'avoir stabilisé le cadre constitutionnel et clarifié les règles issues de l'accord, ce serait prendre le risque d'ouvrir une nouvelle séquence électorale sur des bases encore incertaines. Cela fragiliserait les institutions au moment même où nous cherchons à les consolider. Le choix de décembre par les partenaires, c'est un choix de cohérence. Il permet d'avancer dans l'ordre, sécuriser constitutionnellement les équilibres, travailler sur la loi organique, consulter les Calédoniens et enfin renouveler les assemblées dans un cadre clarifié. Ce n'est donc pas un énième report, c'est une mise en cohérence institutionnelle. Et surtout, c'est un choix de stabilité. Le territoire sort à peine d'une crise profonde, les acteurs économiques, les collectivités, les responsables locaux ont besoin de visibilité. Une élection dans un cadre stabilisé est plus protectrice qu'une élection précipitée.
Face aux députés de la Commission des lois, Naïm Mamoudchou a également voulu répondre à ceux qui dénoncent une hyper-provincialisation ou un risque de partition dans l'accord de Bougival.
L'accord ne prévoit pas un transfert massif et automatique de compétences vers les provinces. Il ne prévoit pas de mise en concurrence des territoires entre eux. Il ne prévoit pas un affaiblissement de l'échelon central calédonien. Ce qu'il prévoit, c'est la possibilité d'adapter certaines politiques publiques au plus près du terrain, tout en maintenant un cadre commun et des mécanismes de solidarité. Les transferts éventuels vers les provinces seront encadrés par la loi organique. Ils devront être décidés politiquement. Ils ne seront ni automatiques, ni de plein droit, et ils s'inscrivent dans un système financier qui garantit la cohésion d'ensemble. L'unité de la Nouvelle-Calédonie n'est pas négociable, elle est même un point d'attention constant dans la rédaction du texte, parce que chacun sait que l'équilibre du territoire repose précisément sur la capacité à reconnaître les spécificités locales sans fragmenter l'ensemble. Le débat est donc légitime, mais il ne correspond pas à ce que contient l'accord.
Et puis autre réponse de la ministre des Outre-mer, elle a justifié devant les députés le fait que la loi organique n'ait pas été rédigée avant l'examen de la réforme constitutionnelle.
Nous aurions pu produire un texte qui soit entièrement ficelé, qui aurait pu être rédigé à Paris, puis présenté aux partenaires calédoniens, puis au Parlement, mais ce n'est pas la voie que nous avons retenue. La loi organique ne doit pas être un texte préparé à huis clos par l'administration, puis transmis au Sénat, à l'Assemblée nationale. C'est une pièce politique majeure. Elle doit être co-construite avec les forces calédoniennes, et c'est à cette condition qu'elle sera légitime. C'est le sens de la mission que j'ai diligentée, qui est arrivée à Nouméa le 10 mars, dirigée par Pascal Gossy. Elle travaille depuis 2 semaines déjà avec les partenaires dans un cadre de comité de rédaction.
La ministre des Outre-mer qui a enfin invité les députés à faire preuve de responsabilité et à ne pas bloquer le texte qui peut toujours être amendé, a-t-elle déclaré. Elle a mis en garde contre un rejet de la réforme constitutionnelle en estimant que l'alternative est l'incertitude et que l'incertitude en Nouvelle-Calédonie finit toujours par fragiliser la paix civile. Les députés de la commission des lois ont ensuite entamé l'examen du texte et parmi les intervenants, le député indépendantiste Emmanuel Chibaou. Il a rappelé avoir signé l'accord de Bougival qui depuis a été rejeté par la base du FLNKS. Il demande que les élections provinciales ne soient pas de nouveau reportées, qu'elles aient lieu en juin et que de nouvelles négociations s'ouvrent ensuite.
C'est aujourd'hui compliqué de s'avancer sur un texte qui n'a aucune valeur consensuelle. Les réserves, elles ont été dites par tous sur la méthode. On nous dit il est urgent d'avancer parce qu'il n'y a pas de compromis. Il y a eu un compromis, Madame la Ministre, qui était à Deva sur la proposition d'État associé. L'UNI, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, le FLNKS se sont portés favorablement pour ce projet. On a fait valoir le consensus à ce moment-là. On a fait valider une résolution au Congrès de Nouvelle-Calédonie pour dire que c'est la démocratie qui l'emporte. On a respecté nos engagements sur la valeur du consensus. Donc c'est la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, on votera contre. On demande à tenir les élections provinciales, ne pas faire de quatrième report.
Le député Nicolas Metzenf a lui aussi pris la parole. Il souhaite que les parlementaires valident l'accord de Bougival pour que ce soit les Calédoniens qui se prononcent sur le projet de loi constitutionnelle lors d'une consultation qui doit se tenir avant le 26 juillet.
Je voudrais qu'on acte ici à l'Assemblée nationale, c'est qu'on arrête de prendre en otage le choix des Calédoniens et qu'on donne la parole au peuple calédonien sur cet accord et que les Calédoniens tranchent. Et c'est ce qui est prévu dans le texte. C'est-à-dire que si on passe la réforme constitutionnelle ici à l'Assemblée nationale et au Congrès de Versailles, in fine, ce sont les Calédoniens qui vont décider si oui ou non Bougival se met en place. Ce n'est pas l'Assemblée nationale ni le Congrès de Versailles. C'est les Calédoniens qui décident à la fin. Parce que si les Calédoniens votent non au référendum concernant Bougival, il n'y a pas d'accord Bougival. Donc pourquoi cette Assemblée qui nous demande de trouver un consensus à 100% de la classe politique calédonienne, qui n'arrive même pas, elle, à trouver de consensus pour un budget, pardon. Vous nous demandez des choses que cette Assemblée est incapable de faire pour la France. Pourquoi vous empêchez les Calédoniens de voter sur l'accord Bougival ?
Nicolas Metzenf qui a aussi rappelé le résultat des élections municipales pour affirmer que les Calédoniens favorables à Bougival sont majoritaires. Le projet de loi constitutionnel sera donc étudié en séance publique de l'Assemblée nationale à partir du mercredi 1er avril. Mais il faut préciser que les débats de la commission des lois ont été interrompus dans la soirée après le malaise d'un collaborateur parlementaire. Il a été évacué conscient selon plusieurs sources de la commission, mais les discussions ont été suspendues et elles reprendront à 9h, c'est-à-dire ce soir pour nous, à 19h. Et puis on ne sait rien pour l'instant de la réunion qui se tenait ce matin pour nous à l'Élysée entre le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres. Mais il y a manifestement une inquiétude au plus haut niveau de l'État sur la possibilité de faire adopter la réforme constitutionnelle.
L'autre titre à la une aujourd'hui, c'est le dossier de la desserte des îles Loyauté qui est toujours suspendu. On rappelle qu'un corridor sanitaire a été mis en place pour Lifou et Ouvéa. Ce n'est pas le cas pour Marais, où le collectif opposé au déménagement d'Air Calédonie à Tontouta refuse toujours de voir les appareils d'Aircal se poser à La Roche, Michael Juneski.
En effet, les avions de la compagnie aérienne domestique ont déjà pu effectuer deux rotations à Lifou puis à Ouvéa, mais à Marais, le collectif des usagers d'Aircal a refusé la mise en place d'un dispositif similaire. Il refuse toujours que les avions d'Aircal se posent à l'aérodrome de La Roche pour protester contre le déménagement de la compagnie à la Tontouta. Les explications de Kadje Yewene, l'un des porte-parole du collectif.
Le problème d'Aircal reste toujours la même. La position du collectif, c'est on n'est pas contre les évacuations, le corridor sanitaire entre la Grande Terre et Marais, mais seulement sans Air Calédonie. Si Air Calédonie s'occupe du corridor sanitaire, on aimerait bien qu'il décolle de Magenta et il atterrit à Magenta. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, on voit déjà qu'on nous critique, disant que les malades, ils débarquent bien à Tontouta, et pourquoi pas les usagers des îles. Donc, ils veulent normaliser Air Calédonie sur la Tontouta. Si c'est le cas où une autre compagnie qu'Air Calédonie, il n'y a pas de souci. Le ciel de Marais leur est acquis. Il n'y a pas de souci. Les évasins se font régulièrement tous les jours. Je ne vois pas pourquoi les autres, mais avec Air Calédonie, comme on a des soucis avec le déménagement d'Air Calédonie sur la Tontouta, Nous, on dit non. On a remis un courrier hier. On n'est pas contre le corridor. On est toujours pour que les malades soient évacués de l'île, mais sans Air Calédonie.
Près d'une cinquantaine de patients seraient concernés par un déplacement pour raisons sanitaires à Marais. On rappelle que ce mardi, 44 patients de l'IFU ont été transportés jusqu'à la Tontouta. 100 kilos de médicaments ont également été apportés à l'IFU. Samedi, ce sont 50 patients et 6 personnels de santé qui avaient été transférés d'Ouvéa jusqu'à la Tontouta, tandis qu'une infirmière avait été emmenée à Ouvéa. Des réunions sont par ailleurs organisées aujourd'hui même à Marais, notamment avec les services sanitaires de la province des îles, pour tenter de trouver une solution. Et puis en ce qui concerne le transport maritime, le Betticho est quant à lui toujours immobilisé en raison d'un problème technique, au moins jusqu'au 29 mars. Pas encore de date de reprise officielle de confirmée pour la remise en service du navire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Approuvez-vous la mise en place de corridors sanitaires pour assurer la continuité des soins alors que les aérodromes des îles sont bloqués depuis plus de 3 semaines? Si vous approuvez la mise en place de ces corridors sanitaires, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 81% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits du large renouvellement des maires de Nouvelle-Calédonie constaté à l'issue des élections municipales. Ils sont 19% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Un mot de justice, en bref, avec la suite de la première session d'assises de l'année à Nouméa. Hier, un homme de 56 ans a été condamné en appel pour viol et agression sexuelle sur conjoint. Il a écopé de 17 ans de réclusion criminelle contre 15 ans en première instance. Et depuis ce matin, c'est une nouvelle affaire de mœurs qui est jugée. L'homme assis dans le box des accusés est accusé, pardon, de viol et d'attouchement commis sur sa cousine qui était mineure au moment des faits entre 2020 et 2023. L'accusé était alors âgé d'une vingtaine d'années. Ce procès doit durer 2 jours. Il est 11h42, pardon. Une première pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Le Salon Toyota 2026, du 27 au 29 mars, à la Maison des Artisans. Venez découvrir la gamme Toyota et le tout nouveau Toyota RAV4. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Alors rendez-vous du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Normotors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec cette matinée contre les violences au lycée d'Okamo. Les élèves de seconde, première et terminale ont pu participer à des ateliers sur la violence, le harcèlement, mais aussi la gestion des émotions, Léo Fichou.
Oui, face à de nombreux cas de violence physique et verbale, dans la cour de récré, en classe, mais aussi à la maison ou dans le sport, le lycée d'Okamo veut briser ce cycle de violence. 12 intervenants étaient présents ce matin. La DAVI, la police nationale, la SSNC, l'association Prism ou encore le relais. Et ce, pour sensibiliser les plus jeunes. Daniel Collet est documentaliste au lycée d'Okamo. Il organise la matinée.
On a beaucoup d'élèves qui sont en souffrance, hein, qui subissent la violence, mais beaucoup d'élèves aussi qui génèrent de la violence. La violence est physique et verbale et complètement banalisée. Et évidemment, les violences intrafamiliales en Calédonie, on le sait, hein, qui arrivent à un niveau dramatique. Donc voilà, on met en contact les élèves avec toutes ces structures qui existent pour que les élèves voient qu'il y a des moyens de se faire entendre. Il y a des structures qui peuvent accueillir leurs paroles, le cas échéant, ou leurs problèmes, qui peuvent les aider au niveau juridique, au niveau affectif, au niveau psychologique, etc. Et bien, il y a des institutions, des associations qui aident les gens qui sont en difficulté.
Et parmi les élèves qui ont participé à cette matinée, Jovanica et Poula, ils ont apprécié les échanges et les conseils donnés par les intervenants.
Ben, aujourd'hui, on a des ateliers et puis on est mélangés dans les classes. C'est quelques élèves de toutes les classes qui sont dans des ateliers. Puis moi, j'étais dans l'atelier relais.
Ça dépend, il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier sur les femmes et les enfants d'abord. C'est un atelier contre la violence faite aux femmes et aux enfants.
Et tu trouves que c'est une bonne chose, ces ateliers?
Oui, c'est une bonne chose. C'est de la prévention pour nous plus tard. Comme on est tous des futurs papas et des futures mamans ici.
Puis on a fait des ateliers sur toutes les formes de violence. Il y a même la police qui est intervenue pour le cyberharcèlement. C'est une bonne chose parce que on apprend plus sur la violence. On sait les conséquences et puis les solutions à faire, les choses à éviter, tout ça.
Une matinée contre les violences au lycée d'Okamo qui sera de nouveau organisée l'an prochain, comme c'est le cas chaque année depuis 2022.
Le général Maury était ce matin notre invité à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Le général Maury, c'est le directeur adjoint de l'ONAC-VG, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, Lionel Sabot.
Cet office a été créé il y a plus de 100 ans après la Première Guerre mondiale. Il s'occupe, pour faire simple, de toutes celles et ceux qui ont souffert ou combattu pour la France. Les ressortissants de l'ANAC sont des anciens combattants, notamment ceux qui ont été blessés au combat, des veuves des combattants, mais aussi les pupilles de la nation ou encore les victimes de guerre ou du terrorisme. L'ONAC qui a plusieurs missions, comme le rappelle le général Maury.
On a d'abord la mission de reconnaissance qui consiste à... Alors là, on a affaire plutôt à des juristes. Ce sont des juristes qui travaillent sur un code qui s'appelle le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, qui est un code juridique, où ces spécialistes du droit arrivent à déterminer si telle ou telle personne peut faire partie de la cohorte des ressortissants de l'Office. Oui. Ensuite, on a cette mission de solidarité qui consiste à, parmi toutes ces personnes, à les aider sur le plan financier comme sur le plan moral ou administratif. Et puis enfin, on a une mission qui est un peu atypique et d'ailleurs qui est assez récente puisqu'elle date, je crois, de 25 ans, alors que l'Office est une vieille maison qui date de 100 ans, qui a été créée après la Première Guerre mondiale. C'est la mission mémoire. Et là, il s'agit de transmettre les valeurs du monde combattant à des publics, notamment des publics jeunes, mais aussi des publics qui peuvent être un peu éloignés du monde combattant. En métropole, on travaille beaucoup avec, par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse. Mmh. Donc, vous voyez, ces trois volets, ces trois pieds du tabouret, la reconnaissance, la solidarité et la mémoire, ce sont les trois missions principales de l'Office.
L'ONAC, dont le budget global annuel est de 25 millions d'euros, près de 3 milliards de francs, est présent sur l'ensemble du territoire national. Et cette visite du général Maury lui permet, entre autres, d'aller à la rencontre des équipes de l'ONAC sur le territoire.
Je rencontre d'abord le service. Ça, c'est très important. Ouais. Autant Jean-Paul Lextré, qui est le directeur, je le vois très régulièrement. Les autres agents, je ne les connais pas. Et c'est très important pour nous d'aller parler avec nos agents, parce que c'est eux qui vivent concrètement ce lien de proximité avec nos ressortissants. C'est eux qui font le job, en quelque sorte. On s'aperçoit que, par exemple, un agent de solidarité en Nouvelle-Calédonie, il n'a pas forcément exactement le même boulot qu'un agent de solidarité qui travaille dans le Morbihan ou dans le Nord ou dans la Moselle. Et ça, c'est très important de voir les conditions de travail, la façon dont les ressortissants sont accompagnés sur le territoire. Évidemment, je rencontre aussi les autorités civiles et militaires. J'ai évidemment rencontré le général Soubrier, j'ai rencontré le haut-commissaire, j'ai rencontré le chef de corps du RIMAP. Et puis je rencontre aussi des institutions, j'allais dire, plus civiles. J'ai vu hier des représentants de la province sud, je vais voir des représentants du Congrès, du gouvernement, etc. Parce qu'il y a quelques sujets d'importance et qui sont vraiment très spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Le général de division Maury, directeur adjoint de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, une interview que vous retrouvez en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Et parlons maintenant de la campagne de vaccination contre le papillomavirus humain qui débute dans les collèges de Nouvelle-Calédonie. Des équipes de l'agence sanitaire et sociale étaient présentes ce matin, notamment au collège Mariotti à Nouméa, Léana Colombo.
30 vaccins ont été réalisés ce matin, mais ce sont 150 doses qui ont été administrées en 2 jours et demi rien que dans cet établissement scolaire. Les infections à papillomavirus humain ou HPV peuvent évoluer vers des cancers, dont le plus fréquent est celui du col de l'utérus. La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons à partir de 11 ans. Et en milieu scolaire, la campagne cible les élèves de 5e, puis le rappel se fait en 4e. Géraldine Vatelet, directrice adjointe en charge des programmes de prévention à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.
Il faut savoir que ça concerne tout le monde. 80% de la population est en contact à un moment donné de sa vie avec le papillomavirus. Donc ça veut dire que ça concerne vraiment tout le monde, les garçons et les filles. On les vaccine à cet âge-là parce que c'est l'âge où la réponse immunitaire est la meilleure. C'est un vaccin qui est totalement gratuit, qui est fortement recommandé par le calendrier vaccinal calédonien, mais aussi par l'OMS et la Haute Autorité de Santé, qui est soumis à décision parentale. L'infirmière scolaire a dû délivrer à tous les parents une décision parentale et j'engage tous les parents à remplir cette décision, qu'elle soit positive ou négative. C'est libre à chacun de pouvoir prendre sa décision, mais d'avoir une décision éclairée. Si je devais convaincre les parents, c'est vacciner leur enfant aujourd'hui, c'est leur donner la chance de ne pas avoir de ces cancers qui sont ciblés par le papillomavirus. Donc c'est quand même une chance qu'on a au niveau scientifique. Et c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui est prouvé et qui surtout est surveillé régulièrement.
Alors que la couverture vaccinale est inégale selon les pays, le taux en Calédonie est de 40% chez les élèves de 5e. Et cette décision de vacciner a souvent été prise par les parents.
C'est mes parents qui ont décidé que je devais le faire. Et aussi, parce que tous les vaccins sont importants, vu qu'on ne va pas en faire pour rien.
Quand l'infirmière était venue nous le présenter, je me suis dit, oh, bah, un vaccin, bah, je vais le faire. Je vais demander quand même à mes parents, mais forcément, mes parents, bah, ils ont directement dit oui, parce qu'il faut quand même les faire, les vaccins, c'est important, comme l'a dit mon ami.
C'est pour éviter d'avoir des maladies transmissibles.
Un vaccin, c'est toujours bien pour prévenir la maladie, et comme ça, après, je serai mieux habituée au virus si je l'ai.
C'est une demande qui vient de mes parents, donc je l'ai faite. Et aussi parce que bah, c'est pour ne pas attraper de maladie. Du coup, bah, je préfère faire un vaccin qui fait un peu mal que d'avoir très très mal à cause d'une maladie.
Jusqu'au 29 mai, les équipes de l'Agence sanitaire et sociale se déplaceront dans les établissements scolaires en province nord et en province sud pour vacciner le plus grand nombre d'élèves.
25e jour de guerre au Moyen-Orient. On parle de plus en plus de discussions autour d'un éventuel cessez-le-feu. Dans un instant, on se retrouve pour la page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Le Tiki Fest débarque pour sa première édition en Nouvelle-Calédonie. Samedi 4 avril, l'Arène du Sud se transforme en festival international avec un line-up exceptionnel. Le rappeur emblématique Aurel San. Le DJ explosif de Major Lazer, Walshy Fire. Et aussi Shelley et les DJL et Mr. T. Billetterie ticketpacific.nc et dans les magasins Auchan, Kéferi, Auteuil et Conné. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
La Fondation Riz de Saint-Vincent présente son concours de recettes équilibrées 2026. Tous riz unis en cuisine. Prépare ton meilleur plat équilibré. Une recette de cuisine bonne et saine pour bien manger. Du CE1 au CM2 ou 6e SECPA, il y a 1 million de francs à se partager. Pour participer, dépose ta candidature avant le 7 août 2026. Plus d'infos et règlements du concours sur www.saintvincent.nc.
Fondation Riz de Saint-Vincent, faire ici, faire bien, faire bon.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'information en métropole et dans le monde avec Jean-François Baudin.
25e jour de guerre au Moyen-Orient et l'on parle donc de plus en plus de la tenue de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Elles sont en cours, a même affirmé Donald Trump, mais pour l'instant il ne s'agit que de contacts. Cela pourrait toutefois déboucher sur des pourparlers et un pays est même prêt à accueillir les négociateurs des deux camps. Charles Bouchin pour Europe 1.
Il s'agit du Pakistan, annonce faite sur le réseau social X par le Premier ministre pakistanais. Il écrit que son pays est prêt à faciliter des pourparlers constructifs et définitifs en vue d'un règlement du conflit en cours. Avant le début de la guerre, c'est à Oman que les États-Unis et l'Iran avaient pour habitude de se rencontrer. Mais depuis, ce pays du Golfe a lui aussi été la cible de frappes iraniennes. Le Pakistan paraît désormais comme le seul pays à pouvoir jouer les médiateurs, explique Michel Fayad, spécialiste du Moyen-Orient.
Le Pakistan a une bonne relation avec les États-Unis, une bonne relation avec l'Iran. Il n'y a plus beaucoup de pays qui peuvent se tarer d'avoir des bonnes relations avec les deux. La République islamique du Pakistan a la bombe atomique et c'est en partie les États-Unis qui ont été les principaux responsables. Et vis-à-vis de l'Iran, l'Iran et le Pakistan ont des relations commerciales, s'entendent bien entre eux.
Et même si Téhéran dément toute discussion directe avec les États-Unis, Donald Trump réaffirme ce soir, vous l'avez dit, qu'il négocie en ce moment avec les bonnes personnes en Iran. Le président américain ajoute que les Iraniens veulent conclure un accord et qu'ils auraient offert un très gros cadeau, dit-il, lié aux hydrocarbures. Mais dans le même temps, la guerre ne s'arrête pas. La Maison-Blanche affirme que les opérations américaines contre l'Iran se poursuivent sans relâche et selon plusieurs médias américains, le Pentagone se prépare même à envoyer 3000 parachutistes vers le Moyen-Orient.
25e jour de guerre et 25e jour de blocage. Du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole ne baissent pas, au contraire. Le ministre français de l'économie, Roland Lescure, parle même d'un nouveau choc pétrolier. Le gouvernement a une nouvelle fois écarté une aide généralisée aux automobilistes, mais Sébastien Lecornu évoque des mesures à l'étude pour soutenir les grands rouleurs sans plus de précision. L'actualité en métropole est aussi politique, avec les conséquences des élections municipales. À gauche, on médite sur l'échec des alliances avec la France insoumise, on médite et on contre-attaque, à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé devant ce qu'il appelle les nouveaux médias, souvent acquis d'ailleurs à l'extrême gauche. L'échec des alliances, dit-il, c'est la faute des socialistes et des écologistes.
Madame Tondelier et Monsieur Faure nous ont une nouvelle fois éblouis, se sont même tendu un piège, ils sont tombés dedans, et voilà le résultat qui est sous leurs yeux.
Et en même temps, malgré ces attaques, Jean-Luc Mélenchon reste ouvert, avec beaucoup de flou toutefois, à de nouvelles alliances pour les échéances électorales à venir.
On sait qu'ils sont stupides, on sait qu'ils sont violents, on sait qu'ils sont méprisants, mais on va pas nous-mêmes aller se foutre en ultra-minorité.
De son côté, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, est aussi sous pression. Il doit faire face aussi aux critiques sur le flou qui a entouré ses positions sur les alliances. Certains réclament même sa démission et le bureau national qui s'est déroulé tôt ce matin au siège du parti a été tendu. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Huit clos sous tension, les cadres vident leur sac. Au cœur des échanges, la ligne du parti et la stratégie d'alliance avec LFI. Les opposants d'Olivier Faure dénoncent des choix improvisés dans l'entre-deux-tours et une perte totale de lisibilité. Plusieurs réclament une clarification immédiate. Certains évoquent même un changement de cap. Le premier secrétaire du PS leur a répondu en dénonçant l'hypocrisie de ceux qui, dit-il, ont accepté les accords avec LFI dans leur fédération tout en lui faisant porter le chapeau. Autre moment clé de la réunion, la prise de parole de Boris Vallaud, jusqu'ici soutien du premier secrétaire. Il a appelé à une rupture. On va redire plus jamais LFI, mais qui nous croit? On ne peut pas continuer comme avant, a-t-il expliqué. Autre intervention marquante, celle d'Hélène Geoffroy, battue de justesse à Vaux-en-Velin. Elle raconte une campagne d'entre-deux-tours intenable, obligée de nier toute alliance avec LFI pendant que les insoumis l'attaquaient frontalement. Les proches d'Olivier Faure tentent de contenir la crise. Pour eux, pas question de remettre en cause la direction à un an de la présidentielle.
Et puis tension aussi chez Les Républicains, où le président Bruno Retailleau est également critiqué. Les résultats sont décevants dans les grandes métropoles, même si les LR apparaissent comme la première force politique locale dans les villes moyennes. Bruno Retailleau, qui a aussi refusé de trancher entre Éric Ciotti et Christian Estrosianis, veut voir désormais plus loin. Il estime que le projet pour la présidentielle des LR peut rassembler la droite.
Je suis certain que le projet que nous sommes en train de travailler, il peut aussi bien convaincre l'électeur qui a, par exemple, voté au Havre pour Édouard Philippe, ou encore l'électeur de M. Robert Ménard à Béziers. C'est ce que j'appelle la majorité nationale.
Bruno Retailleau, le président des LR. Il est 11h56, une nouvelle pause avant de voir l'actualité sportive. On commencera par la retraite du skieur français Alexis Peintureau à 34 ans. Il a mis fin à sa carrière.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru mis en circulation entre 2004 et 2014, modèle Impreza, Forester, Legacy Outback ou Tribeca, votre véhicule est peut-être concerné. Réalisé exclusivement au village automobile au PK4 à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit, avec le prêt d'un véhicule relais offert. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 41 44 66 ou par email à rvairbags@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Oui, c'est les sports d'hiver et le ski qui sont à la une aujourd'hui avec la dernière glisse pour Alexis Peintureau. Le Français avait annoncé il y a 10 jours la fin de sa carrière, Léo Fichou.
Pour la 356e et dernière fois, donc Alexis Peintureau a pris le départ d'une épreuve de Coupe du Monde. C'était en Norvège, à Avgel, lors du géant. Alexis Peintureau, c'est 3 médailles olympiques, mais aussi une victoire au classement général de la Coupe du Monde en 2021, 3 titres de champion du monde et 34 victoires en Coupe du Monde. Écoutez Alexis Peintureau après sa dernière descente.
Je suis conscient que ça a été une vie extraordinaire, une vie chargée d'émotions, une chargée de plaisir, chargée de réussite aussi. Mais en même temps, je suis très heureux de clôturer ce chapitre. Je sentais que c'était le moment pour ça et qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Donc, il y a forcément beaucoup de plaisir. En même temps, il y a ce petit côté de qu'est-ce qui va arriver après et qui, avec toutes les interrogations qu'il peut y avoir, qui sont la part d'inconnu et qui peut faire un peu peur hein, pour un athlète de très haut niveau.
Et pour sa dernière, Alexis Pinturo s'est fait plaisir. Il termine 11e. Ses coéquipiers en équipe de France l'ont accueilli en bas de la piste avec une bonne douche de champagne et un trophée où on pouvait lire GOAT, le meilleur de tous les temps en anglais.
L'actualité du tennis nous emmène aux États-Unis, notamment au Masters 1000 de Miami où Arthur Fils continue d'impressionner.
Après avoir balayé le grec Stefanos Tsitsipas 6-0, 6-1 en 16e de finale, le français est venu à bout du monégasque Valentin Vacherot 6-4, 6-7, 6-4 en quart de finale. Arthur Fils, 31e mondial, affrontera l'Américain Tommy Paul, 23e à l'ATP. En revanche, pas de nouvel exploit pour Terence Atman. Il s'est incliné en 3-7 face à Frances Tiafoe, 4-6, 6-1, 4-6. Aujourd'hui également à suivre Hugo Humbert contre Francisco Cerundolo et Quentin Lys face à Alexander Zverev.
Le cyclisme avec la deuxième étape du Tour de Catalogne et c'est Magnus Cort Nielsen qui s'est imposé au sprint. Le Danois devance le Français Noah Isidore et l'Italien Francesco Busato. Le champion de France Dorian Godon on termine quatrième et conserve le maillot de leader. Étape de montagne la nuit prochaine pour nous. 159 km avec trois cols classés au programme. Le sport côté calédonien maintenant avec du cyclisme sur piste. Hier, Chatcharet a terminé 14e de la course au point, la première épreuve des championnats d'Australie U19. Kerian Moutry et Raël de la Tierne n'ont pas terminé les 100 tours de course. Aujourd'hui, place à la poursuite individuelle et à la vitesse par équipe avec notamment l'entrée en piste d'Enzo Martoreggio. Et puis du taekwondo, toujours en Australie avec les Oceania cadets juniors et seniors. Ils sont prévus ce week-end et 18 cagous seront engagés, Léo.
Ils sont à Liverpool, au sud-ouest de Sydney. Sydney qui accueille donc les meilleurs combattants de la grande région, des Calédoniens, des Australiens mais aussi des Chinois et des Coréens. Une compétition prisée puisqu'elle rapportera beaucoup de points aux vainqueurs, des points qui servent pour les qualifications aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Face à cette adversité de taille, Johan Hardel, le coach de la délégation calédonienne, veut que ses combattants prennent de l'expérience.
Il faut savoir que la compétition elle est rankée 6, donc le premier prend 60 points sur le podium à la plus haute marche. Nous, on a préparé une équipe, elle est toute nouvelle. Il n'y a que deux combattants anciens en senior. C'est plus de la découverte. On va enrichir leur expérience au niveau international. Il faut savoir perdre avant de gagner. C'est une parfaite comme compétition. Ça va ouvrir des esprits plus aguerris par la suite.
Les pesées de ces Océania de taekwondo en Australie sont prévues vendredi avant les compétitions le week-end, samedi pour les cadets, dimanche pour les juniors et les seniors.
Et on termine avec un mot de voile pour signaler que deux Calédoniens participent cette semaine à la Macao Match Cup 2026. C'est une étape majeure de la Coupe du Monde de Match Race. Tom Picot et Yann Rigal évolueront en équipage à 4 avec Franck Lavenant et Louis Taylor de Métropolitain. Voilà, il est midi 3, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Infomag se poursuit évidemment jusqu'à 13h. C'est Pierre qui prend le relais. Et à 13h, ce sera le rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.